Bien, ben on va donc continuer avec Corinne Thiriono qui va nous faire un panorama, une présentation de ce que c'est que l'édition dans le secteur de la recherche en architecture.
Donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais au préalable remercier les organisateurs pour cette invitation qui est un moment intéressant pour présenter ce qui se passe du côté des écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage. Et je voudrais remercier aussi Christian Dautel, le directeur de cette école, pour avoir accueilli donc ces 9e journée du réseau Médici, donc réseau que je découvre aujourd'hui avec un grand intérêt. J'apprends énormément de choses, donc je suis très contente d'être parmi vous. Alors, cette première slide, au préalable, juste pour vous expliquer d'où je parle, parce que vous allez vite comprendre que voilà, je ne suis pas du tout, je ne vais pas vous faire une présentation aussi pointue que celle de mes voisins, puisque je ne suis pas du tout une spécialiste de l'édition scientifique. Je représente donc ici le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, qui se situe donc dans la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture, du service de l'architecture au sein de la Direction générale des patrimoines. Et donc je suis responsable de ce bureau depuis 2 ans. Je viens moi-même des écoles nationales supérieures d'architecture puisque je suis architecte, docteur et enseignant-chercheur des écoles. Donc pourquoi je vous précise que je suis là depuis 2 ans, c'est aussi pour vous indiquer que la plupart des dispositifs et des outils dont je vais vous parler ce matin ont été mis en place par mes prédécesseurs, que donc depuis 2 ans j'ai pris le train en marche et que j'ai essayé de faire évoluer certains outils et certains dispositifs en relation bien sûr avec les enseignants-chercheurs des écoles d'architecture. Donc le titre de la présentation de ce matin que je souhaitais faire, c'était vous faire part de cette politique de valorisation et de diffusion des productions scientifiques qui émanent des écoles et de leurs laboratoires de recherche, et vous préciser en conclusion quelques perspectives d'évolution. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le milieu des écoles d'architecture, donc je vous présente une carte des 20 écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage pour 2 d'entre elles, Lille et Bordeaux, donc délivrent également un diplôme de paysagiste. Et nous sommes en lien aussi avec l'école spéciale d'architecture, qui est une école privée à Paris, et l'école de Chaillot, qui est une formation pour les architectes du patrimoine. Donc toutes ces écoles, bien sûr, travaillent en réseau. La mission principale du Bureau de la recherche, c'est de développer les conditions d'une politique scientifique dans les domaines de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, à partir de cadres nationaux précis, donc évidemment la stratégie nationale de la recherche du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, mais également bien sûr des priorités ministérielles de la culture, qui sont inscrites notamment, pour ce qui concerne notre discipline, dans la stratégie nationale pour l'architecture qui a été publiée en 2015 et dans la stratégie de recherche du ministère de la Culture qui a été publiée en 2017 à un horizon 2020. C'est l'horizon également de la stratégie nationale pour l'architecture et on va rentrer donc dans une phase l'année prochaine de bilan pour faire évoluer ces documents de référence stratégique. Donc cette mission, bien sûr, elle s'exerce par rapport aux 20 écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage, et surtout en lien et à travers, en appui, des 37 unités de recherche qui sont abritées dans ces écoles, et des 10 réseaux scientifiques thématiques qui sont habilités par le Bureau de la recherche, qui sont transversaux aux unités de recherche et aux écoles, et bien sûr également en lien avec tous les établissements d'enseignement supérieur qui sont partenaires de ces acteurs. Une cartographie donc de ces 37 unités de recherche qui sont abritées dans les écoles. Quelques chiffres quand même pour vous donner des ordres de grandeur et des précisions sur l'environnement des acteurs avec lesquels on travaille. Donc ces écoles accueillent actuellement près de 20 000 étudiants, dont plus ou moins 400 doctorants en cours, sachant que les doctorats sont délivrés depuis 2005 grâce au cycle doctoral mis en place dans les écoles après le protocole de Bologne. Mais les écoles, pour cela, conventionnent donc avec des communes ou des universités. La population enseignante donc, est composée de près de 1000 titulaires. Et je ne l'ai pas mis sur la slide, mais il faut savoir que sur ces 1000 enseignants-chercheurs titulaires des écoles d'architecture, c'est environ un tiers qui sont accueillis, qui sont membres des unités de recherche des écoles d'architecture. Donc tous ces enseignants-chercheurs ne vont pas être publiants au sens de l'HERS du terme. Ces 37 unités de recherche, en fait, elles sont pour près de 50% d'entre elles regroupées dans des UMR, dans 6 UMR mixtes, grâce à un accord cadre du ministère de la Culture et du CNRS, qui va aussi rentrer dans une phase de bilan, puisque l'actuel accord cadre se termine en 2020. La particularité, là je vais très très vite, de ces unités de recherche, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires et multiscalaires, dans la mesure où les enseignants-chercheurs de ces unités travaillent sur des sujets ou des objets de différentes échelles, échelle architecturale, échelle urbaine, territoriale, paysagère, à travers des croisements disciplinaires multiples, tels que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, l'art, l'ingénierie, le numérique, la géographie, l'écologie, etc. En deux mots, le document cadre donc de cette stratégie nationale pour l'architecture, elle a pour principal objectif de transformer les relations de la société française à l'architecture et d'apporter de l'excellence ordinaire dans nos espaces du quotidien. Donc ce terme d'excellence, bien sûr, appelle la communauté des enseignants-chercheurs à œuvrer pour répondre à cet objectif de transmission des connaissances, des savoirs, de leur expertise auprès du public, d'un public large de nos concitoyens. Cette stratégie, elle comporte plusieurs mesures, je ne rentre pas dans le détail, mais elle concerne tous les niveaux et tous les secteurs de la discipline architecture et surtout son renouvellement à travers la formation, la recherche, les liens avec les acteurs professionnels, locaux, nationaux ou internationaux, et surtout le lien entre ces trois secteurs de la discipline, formation, recherche, profession. En quelques mots, le Bureau de la recherche est donc structuré en quatre axes de travail. Il a quatre missions principales. Il doit donc mettre en place une politique institutionnelle avec les grands acteurs concernés. Il doit mettre également en œuvre et développer une politique doctorale à l'attention des 400 doctorants qui sont donc inscrits dans les écoles doctorales des universités et accueillis dans les universités de recherche pour préparer un doctorat spécialité architecture. Une politique incitative qui est construite principalement autour de programmes de recherche fléchés sur des grandes thématiques prioritaires portées par le ministère de la Culture, notamment qui concernent les transitions écologiques, numériques et écologiques actuellement, et la mise en place et le soutien et l'accompagnement de chaires partenariales d'enseignement et de recherche qui sont bien sûr qui sont construites en interaction soit avec les programmes de recherche fléchés, soit avec les doctorants qui sont accueillis dans les écoles. Enfin, le quatrième axe, donc, c'est cette politique de valorisation et de diffusion des activités et des produits de la recherche émanant des écoles d'architecture. Je vais vous présenter donc trois grandes familles d'outils et de dispositifs qui sont donc mis en place et pilotés par le Bureau de la Recherche en termes de valorisation et de diffusion des productions scientifiques des écoles. Alors, une première famille, c'est classiquement des aides à l'édition et à l'organisation de colloques scientifiques. qui sont organisées par les écoles et les laboratoires de recherche. Avec, donc c'est une campagne biannuelle, donc on lance un appel à projet deux fois par an. Donc vous voyez, c'est un rythme assez soutenu. Et donc on cofinance avec des éditeurs la plupart du temps privés, donc des ouvrages scientifiques qui peuvent être des monographies, des ouvrages collectifs, des revues scientifiques portées par les écoles, etc. Un deuxième objet important, c'est une revue scientifique entièrement dédiée aux travaux de la discipline architecture, qui s'appelle, donc c'est une revue qui est historique, qui s'appelle Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, qui a longtemps été une revue papier et qui est passée donc, en numérique et en accès libre depuis 2018 sur Open Edition. Le rédacteur en chef Frédéric Pouzin, qui est présent aujourd'hui, en parlera davantage, plus en détail, dans la table ronde suivante. Et enfin, une troisième famille d'objets, ce sont des collections. Donc nous en avons deux. Une première collection qui est toute récente, qui s'appelle Recherche et architecture, qui est une collection des éditions du patrimoine, qui dépend du ministère de la Culture, et une collection qu'on a appelée la collection du BRAUP, donc sur HAL, je reviendrai plus en détail. Donc très rapidement, quelques chiffres pour vous montrer l'évolution et puis aussi la volonté de développer ces aides à l'édition des produits scientifiques émanant des laboratoires des écoles. Nous avons fait un... Désolée, c'est un petit peu décalé, la ligne totale. Mais nous avons fait un rapide bilan à la fois du nombre de demandes d'aide à l'édition pour des publications. Donc vous voyez la diversité des natures, que ce soit des actes de colloque, des thèses de doctorat, des revues scientifiques, des traductions d'ouvrages, avec le nombre de projets qui ont été retenus depuis 5 ans pour un cofinancement donc par le Bureau de la Recherche. Et on a actuellement une explosion des demandes, mais c'est aussi une volonté du Bureau de la Recherche de prendre en considération une multitude de projets et dans toute leur diversité, à partir du moment où ils émanent bien sûr des unités de recherche des écoles et où ils rentrent dans des critères scientifiques classiques type... pour des revues scientifiques, un comité de lecture, des évaluations par les pairs en double aveugle, etc. Donc, en 5 ans, vous voyez que le budget alloué à ces cofinancements a été multiplié par 2,5. Alors, je vous précise tout de suite que l'enveloppe budgétaire du Bureau de la Recherche n'a pas augmenté pour autant. Ce sont vraiment des choix politiques qui ont été faits de prendre sur d'autres lignes, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons organiser peut-être moins de séminaires nationaux pour financer davantage de publications et rendre davantage visible au niveau national et international la production des laboratoires de recherche et également la production doctorale. Donc, je passe au cahier de la recherche qui est mis en ligne sur Open Edition depuis 2018 et dont les modalités de travail et d'organisation ont été à cette occasion complètement revues, puisque même si c'est une revue qui est donc financée par le Bureau de la Recherche et pilotée par le Bureau de la Recherche, il a été décidé de déléguer plus fortement le pilotage scientifique de cette revue et ses orientations éditoriales, avec un appel à candidature pour élire un rédacteur en chef et un nouveau comité de rédaction, donc composé d'enseignants-chercheurs, et un comité scientifique international. Donc cette revue, elle est elle a maintenant son nouveau rythme de croisière, à raison de 3 dossiers thématiques par an, et la création de nouvelles rubriques qui permettent de rendre compte d'une manière plus en temps réel de la dynamique des travaux dans les unités de recherche en architecture, mais pas que. Ça concerne également des acteurs hors école d'architecture, puisque deux rubriques ont été créées, une rubrique actualité de la recherche et une rubrique matériaux de la recherche. Et cette revue, donc, est également, c'était là aussi une volonté de l'ensemble des acteurs, des nouveaux acteurs. Cette revue est bilingue, puisque nous acceptons désormais des textes en anglais, ou à l'inverse, nous faisons des traductions d'articles en langue étrangère qui nous semblent fondamentaux pour la discipline. Ça, c'est juste pour vous, quand même vous montrer qu'il y a c'est un flyer d'information, de promotion de la revue, pour vous montrer quand même qu'il y a une place importante qui est donnée à l'iconographie. Donc, je pense que Frédéric Pouzin, le rédacteur en chef, en reparlera tout à l'heure. C'est aussi ce document est important pour vous montrer qu'en fait, il y a un très grand attachement des chercheurs en architecture vis-à-vis de l'iconographie et du coup des positions assez marquées pour certains d'entre eux pour volontairement ne pas passer en ligne. Il y a certaines écoles d'architecture qui pilotent des revues scientifiques propres et qui ont décidé de manière délibérée de continuer à imprimer les différents numéros de leur revue, considérant que l'iconographie ne peut n'a pas le même apport si elle est imprimée ou si elle est en ligne. Je passe maintenant à la présentation des deux collections pilotées par le Bureau de la Recherche. Donc, tout d'abord, cette nouvelle collection Recherche et Architecture aux éditions du Patrimoine. Les éditions du Patrimoine étant le département éditorial du Centre des Monuments Nationaux et l'éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Alors, cette collection, elle est dédiée à un public à la fois, et c'est ça la difficulté, à la fois éclairé et un public beaucoup plus large pour faire connaître les enjeux, les sujets, les problématiques de la recherche en architecture. Et donc elle consiste à éditer des actes de colloques nationaux qui sont généralement pilotés par le ministère de la Culture sur nos questions, toujours en lien avec les écoles, ou des actes, par exemple, des rencontres doctorales en architecture et paysage que nous organisons aussi avec les écoles tous les 2 ans. Donc, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul volume qui a été publié, donc celui que vous voyez à l'écran, l'architecture entre pratiques et connaissances scientifiques, qui sont des actes d'un colloque national sur cette question qui avait été organisé par le ministère de la Culture au Collège de France en 2015. Enfin, l'outil le plus récent, donc c'est la collection du BRAUP sur HAL, qui est une collection où sont mis en ligne et à disposition l'ensemble des rapports de recherche qui ont été financés par le Bureau de la Recherche depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1972. Donc il a eu différentes appellations entre 72 et aujourd'hui, mais c'est une volonté donc du Bureau de la Recherche de mettre à disponibilité du public l'ensemble de ces travaux qu'il a financés. Et c'est actuellement plus de 350 rapports de recherche qui ont été numérisés et mis en ligne sur HAL, ce qui représente 50% des rapports de recherche que nous avons en archive. Et donc nous allons lancer une deuxième campagne de numérisation ces 50% restants de notre fonds. Nous allons également passer un accord avec le comité d'histoire du ministère de la Culture, qui est actuellement en charge d'un programme de recherche que nous cofinançons, qui est un programme de recherche sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, un programme de 5 ans qui se terminera en 2020, et pour lequel régulièrement des actes de séminaires sont publiés sous la forme sous un format qui ressemble fortement à un format de revue scientifique, dont les articles sont disponibles sur le carnet de recherche du comité d'histoire dédié à ce programme de recherche sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Et ces productions vont être mises en ligne également dans la collection du BRAUP sur HAL, avec un lien vers le carnet de recherche du comité d'histoire. Donc bien sûr, il y a également l'idée de travailler en réseau avec les unités de recherche des écoles, et donc de mettre en place, quand elles existent, des liens avec les collections des différentes unités de recherche propres des écoles ou les UMR, voire le LABEX, qui est le seul LABEX que nous avons dans les écoles. Voilà, juste en deux mots peut-être pour conclure sur les perspectives et les évolutions en cours, je voudrais citer deux moments importants qui vont se dérouler. Tout d'abord, comme vous le savez, les unités de recherche sont évaluées tous les 5 ans par le Haut Conseil de l'évaluation de l'enseignement et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est valable bien sûr pour les formations au niveau des écoles, mais aussi pour les laboratoires de recherche. Et le HERS construit avec les acteurs de chaque discipline un guide des activités, des produits de la recherche de la discipline proprement dite. Il en existe donc déjà un certain nombre qui sont en ligne sur le site du HERS et qui servent bien sûr aux unités pour construire leur dossier d'auto-évaluation, et qui servent également au comité d'experts pour évaluer les unités. Et en ce qui concerne donc la discipline architecture, ce guide n'existe pas encore, mais il va être mis en route grâce à la construction d'un groupe de travail constitué de pairs, qu'on espère pour une mise en place pour la prochaine vague d'évaluation donc des unités, la vague B. Et l'élaboration donc de ce guide des activités et des produits de la recherche en architecture sera bien sûr l'occasion de mieux caractériser ces activités et ces produits, et de réfléchir collectivement aux particularités des produits de la recherche en architecture. Et j'ai bien retenu tout à l'heure cette notion de bibliodiversité. Je pense qu'elle sera importante, puisque en architecture, il y a aussi des travaux de recherche qui peuvent porter sur différentes formes de recherche, telles que la recherche-action ou l'expérimentation, qui donne lieu bien sûr à un certain nombre de données qui peuvent être aussi considérées comme des éléments à part entière de ces guides d'évaluation de la recherche en architecture. Donc ça va être un moment important qui va être nous aider, nous aussi, au niveau du bureau de la recherche et des écoles, d'avoir des discussions, des débats, et de pouvoir mieux caractériser la recherche en architecture. Et puis une seconde et dernière information pour conclure sur les perspectives d'évolution en cours. Le ministère de la Culture réfléchit actuellement dans le cadre de CAP 2022, enfin, la réforme des ministères, à une meilleure visibilité, un meilleur pilotage de l'enseignement supérieur et de la recherche pour toutes ces écoles, hein, écoles d'art, écoles d'architecture, etc. Et il y a actuellement donc un groupe de travail au ministère qui réfléchit sur comment inscrire transversalement une mission, avec plein de guillemets, on ne sait pas encore quelle géométrie ou quel format aura cette nouvelle mission, une mission donc transversale enseignement supérieur et recherche, qui pourra justement porter davantage des actions transversales qui concernent l'édition scientifique, par exemple, puisque au sein du bureau de la recherche, par exemple, nous n'avons plus de personnel dédié, d'agents dédiés à cette question, et donc on essaye donc sur notre temps de trouver des moments pour pouvoir justement mettre en place ces outils, travailler avec les écoles et rendre la recherche visible, accessible à toutes et à tous. Voilà, donc ça c'est un chantier qui est en cours et qui va sans doute s'accélérer puisqu'on nous annonce que dès 2020 cette mission transversale devrait être mise en œuvre et donc on vous tiendra bien sûr informés. Merci beaucoup.